Chapitre 1er. Neuvaine à Saint-Nicolas. M. Zéranville avait fait un mariage d'inclination. Il était riche et Rosalie, son épouse, ne lui avait apporté aucun bien, pas même de succession espérée. Rosalie était la fille d'un ancien militaire qui, pour honneur, n'avait que la banale croix de Saint-Louis qu'on donnait à tout le monde et, pour existence, la modique pension attachée à cette décoration, si multipliée autrefois. Rosalie, ayant perdu son père de bonne heure, avait été élevée par une mère, vertueuse sans doute, mais dont la faiblesse était de s'entourer de prêtres, de religieux de tous les ordres, et de passer ses journées entières à l'église, où elle n'aurait pas manqué les sexes et les nonnes pour tout l'heure du monde. Rosalie avait pris les goûts de sa mère. La dévotion faisait le fond de son caractère et son défaut de fortune l'appelant au cloître, genre de vie qui, d'ailleurs, ne contrariait pas son inclination, elle allait se confiner pour jamais dans un couvent lorsque M. Déranville la vit, l'aima, la demanda à sa mère et l'obtint en mariage. Rosalie perdit sa mère quelques années après son hymen. Et, femme douce, vertueuse, elle concentra toutes ses affections dans son époux, l'être le plus cher qu'elle eût alors sur la terre. Rosalie savait bien qu'elle avait encore un parent qui lui avait donné des preuves de tendresse dans son enfance. C'était un frère de sa mère qui jouissait à Paris d'une fortune immense. Mais ce vieillard avait deux enfants, leur éducation l'occupait et il n'allait plus à Abbeville, près de laquelle ville Rosalie fixait son séjour. Elle n'entendait point parler de son oncle et elle ne pensait qu'à son époux. Rosalie, toujours attachée à ses devoirs de religion, ne poussait cependant point la dévotion à l'excès. Elle était bien moins exagérée sur ce point que sa mère, à qui elle devait ce léger défaut. Bonne, je le répète, douce, sensible, amie du plaisir et de la dissipation, elle se prêtait volontiers à tous les jeux, à toutes les plaisanteries même de la société, et si elle en faisait souvent le charme, par son esprit et les talents qu'elle possédait, elle rendait constamment son mari le plus heureux des hommes par les qualités rares et précieuses de son excellent cœur. Il ne manquait à ces tendres époux qu'un fruit de leur hymen. Un enfant eût été pour eux le don le plus cher de la nature, et la nature, sourde souvent aux prières de ceux qui l'invoquent, le leur refusait. Ils avaient tout, hors ce bien, pour être heureux. Habitant une charmante terre près d'Abbeville, jouissant de toutes les aisances de la vie, au milieu d'un cercle choisi d'amis éclairés et sûrs, il semblait n'avoir rien à désirer. Mais Rosalie brûlait d'être mère, M. Déranville soupirait aussi après le doux lien de la paternité, et il leur importait peu à tous deux, pourvu qu'ils eussent un enfant, de quel sexe il fût. Au contraire, Mme Déranville souhaitait une fille, et son époux se réunissait à elle pour former le même vœu. Mais ni fille ni garçon, c'était aussi une trop grande privation. Déjà, 11 années s'étaient écoulées, toujours dans le même regret, dans le même désir, lorsqu'un matin, M. Déranville fut très étonné d'apprendre que son épouse était partie secrètement de très bonne heure, portant un petit paquet sous son bras, et sans dire à qui que ce fût le motif de cette brusque sortie. Rosalie était sage, vertueuse, son époux ne pouvait la soupçonner d'aucune démarche contraire à l'honneur. Où donc était-elle allée sans la prévenir, sans le consulter? Il rencontre la femme de chambre de Rosalie. « Où est votre maîtresse ?»«
Monsieur, elle est sortie. »«
Je le vois bien, mais où est-elle allée ?»«
Monsieur... »«
Hein, plaît-il, du mystère, qu'est-ce que cela veut dire ?» « Où est madame, encore une fois ?»«
Madame, monsieur, madame ne reviendra que dans 2 jours, demain peut-être. »«
Si vous ne me dites l'objet de ce voyage, je vous fais chasser. »«
Mon Dieu, c'est que madame m'a défendu !»«
De me dire son secret, madame ne peut en avoir d'injurieuse à son époux. Elle n'en eut jamais pour moi. »« Parlez, Victoire, ou vous éprouverez l'effet de mon ressentiment. » La femme de chambre hésite, pâlit, mais voyant que Déranville est égaré, hors de lui, elle prend le parti de tout avouer.
« Eh bien, monsieur, lui dit-elle, vous saurez tout, et si je suis grondée, monsieur voudra bien prendre mon parti ?»« Monsieur connaît bien le père Idulphe, le directeur de la conscience de madame, ce capucin qui demeure au couvent voisin.
Sans doute, après.
C'est que le père Idulphe, monsieur sait bien que madame brûle d'avoir un enfant.
Eh bien, père Idulphe, comment? Parlez.
Père Idulphe lui a donné le secret d'en avoir un.
Je ne vous entends pas.
Monsieur devrait pourtant m'entendre.
Oui, si je me laissais aller à la première idée que semble donner votre manière gauche de raconter les choses.
Mon Dieu, monsieur, je dis ce que je sais, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu.
Vous avez vu?
Oui, le révérend père Idulphe dira à madame, mon enfant, écoutez-moi, veuillez me suivre demain, je vous promets que vous deviendrez mère.
L'insolent.
Père Idulphe continuait, il ne faut pas que votre mari sache où nous allons, il dérangerait nos projets.
Je le crois bien.
Il ajoutait, pardon, monsieur, il ajoutait, votre mari s'y opposerait, c'est un homme du monde qui tourne en ridicule tous les pieux exercices de notre religion.
Il appelle cela un pieux exercice?
Sans doute, monsieur, et très pieux encore, car ils vont passer 2, 3 jours, 9 jours peut-être, à prier ensemble.
À prier, saute.
Sans doute, à prier le bon Saint-Nicolas. Si le bon Saint-Nicolas n'y fait rien, madame ira fourrer sa tête dans le trou de Saint-Frambourg. Si le trou de Saint-Frambourg n'opère pas, elle ira jusqu'au Val d'Ombre baiser 6 fois par jour le pied miraculeux de Sainte-Marie de Bon Recours. Et il faudra bien que tous ces saints-là lui donnent un joli petit enfant. Déranville avait éprouvé d'abord un léger mouvement de jalousie. Il était sûr de la vertu de sa femme, mais il craignait les séductions du cafard qui dirigeait sa conscience et il n'avait pu maîtriser son emportement. Mais en entendant Victoire parler de Saint-Nicolas, de Saint-Frambourg, de Sainte-Marie de Bon Recours, de toutes ces pratiques superstitieuses qu'on met dans la tête des femmes qui veulent devenir mères, il se calma et ne put même s'empêcher de sourire.
« Ah, voilà le mystère, dit-il. Et toi, pauvre insensé, tu n'osais pas me faire part de cette extravagance de ta maîtresse ?
Allons, ce n'est rien qu'un petit accès de dévotion que je prétends néanmoins arrêter dans sa source. Dis-moi, elle est donc partie ce matin pour Saint-Nicolas ?
Oui, monsieur, pour cette église qui, comme vous le savez, est la paroisse d'Orneval du village voisin.
Et pourquoi ne t'a-t-elle pas emmené avec elle ?
Père Udulphe lui a remontré que son pèlerinage devait être fait isolément et dans la plus grande humilité.
Ah, fort bien, Père Idulphe aime les tête-à-tête.
Victoire, dis à Picard qu'il mette les chevaux à la voiture. Nous allons partir, toi et moi, pour Orneval.
Monsieur, ma maîtresse me grondera.
Point, tu lui diras.
Ma foi, tu lui diras que de ton côté, tu as aussi un pèlerinage à faire à Saint-Nicolas.
Oh, monsieur, mon mari Picard et moi, nous n'avons pas besoin des saints du paradis. Voilà 4 ans que nous sommes mariés et, Dieu merci, me voilà enceinte de mon 3e sans les secours de Saint-Nicolas ni du révérend père Idulphe.
Déranville sourit de la naïveté de cette bonne femme et, un moment après, il monta en voiture avec elle. Arrivé au village d'Orneval, Déranville entra sur le champ dans l'église où l'on célébrait la messe. Dans une chapelle à gauche, il y avait une grande statue coloriée représentant Saint-Nicolas. À ses pieds était une énorme jatte de cuivre remplie d'offrandes de toute espèce et autour de la chapelle, on voyait agenouillées une 12aine de jeunes femmes toutes plus jolies les unes que les autres. Déranville y remarqua bientôt la sienne qui rougit en l'apercevant.
« Mon ami, lui dit-elle avec timidité en accourant à lui, pardonne si je ne t'ai pas averti du projet. Je craignais ta censure, tes objections, ta défense d'entreprendre un saint pèlerinage dans lequel j'ai la plus grande confiance.
Rosalie, voilà la première fois que tu me caches tes projets. Dis-moi où est le père Idulphe.
Chez monsieur le curé, mon ami.
Ah, chez monsieur le curé. J'espère qu'il restera chez monsieur le curé et que tu voudras bien revenir sur le champ chez toi.
Mon ami, laisse-moi prier. Tu désires être père. Un enfant ferait mon bonheur
il ne faut négliger aucun moyen. Qui sait si le ciel, si le bienheureux Saint-Nicolas... »
Laisse là le bienheureux Saint-Nicolas, Rosalie, et suis ton époux.
D'Hérenville, tu ne m'as jamais rien refusé, ne commence point à me causer du chagrin. Tiens, voilà une petite place près de moi. Prions tous deux et sois sûr que le pieux dévouement de deux cœurs ne peut qu'être agréable au saint prélat que d'autres femmes viennent invoquer comme moi.
Effet ridicule du fanatisme.
Ah, te voilà, d'Hérenville, toujours impie. Si tu savais quelle peine cela me fait, c'est le seul défaut que je te connaisse. »
Rosalie laissa tomber quelques larmes. Son époux les aperçut et ne se sentit plus la force de contrarier ses projets. Il poussa la complaisance même jusqu'à marmotter quelques mots de l'oraison à Saint-Nicolas, et Rosalie lui témoignant le désir de faire, au pied du saint, une neuvaine complète, il se détermina à rester avec elle à Orneval pendant tout le temps de sa benoîte ferveur. Mais, surveillant toujours Rosalie, éloignant d'elle le moine superstitieux, il passait tous ses moments à chasser avec des amis, outre les plaisirs de la table et ceux des promenades champêtres. De retour à sa terre avec Rosalie, d'Hérenville, qui se proposait d'écarter de chez lui toute espèce de moine, et qui, cependant, craignait de s'aliéner le cœur de sa femme par ce coup d'éclat, trouva tout naturellement le moyen d'effectuer son projet, en procurant à son épouse un voyage qui pouvait faire diversion à ses pratiques de dévotion.